Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr.
Bonjour à toutes et tous. Au programme de notre émission cette semaine, la première édition du Short Festival, festival de théâtre en forme courte, avec mes invités Thierry Pila et Olivier Morin. Guillaume reçoit le duo Salut l'Orage pour Gaël. Cette semaine, c'est la Fondation Bulukian et sa nouvelle exposition Alluvion d'Eva Nielsen. Thomas nous fera entendre quelques aphorismes de Cavana issus d'un recueil intitulé « Le saviez-vous ?». Nous terminons avec les Gédéons. Quand il n'y en a plus, eh ben, il y en a encore. Nous débutons avec la première édition du Short Festival, le samedi 15 mars de 10h à 22h au Théâtre de la Petite Rue. Pour en parler, deux invités, Olivier Morin, programmateur du festival et metteur en scène, et Thierry Pila. Bonjour à vous deux, merci d'être sur notre plateau aujourd'hui. On vous connaît surtout, Thierry Pila, dans le secteur de la musique, dans la région, après le Ninkasi-Kao, le Phi, la Saint-Étienne, et aujourd'hui, la direction de la Halle Tony Garnier. Mais c'est de théâtre que vous venez parler aujourd'hui avec une aventure amicale autour d'un lieu très attachant, le Théâtre de la Petite Rue à Villeurbanne. Et la première édition du Short Festival. Alors, pour bien comprendre, reprenons depuis le début l'histoire d'amitié qui a permis de sauver un théâtre. Racontez-nous, Thierry.
Oui, c'est une histoire d'amitié. On est cinq associés, en fait. On a craqué sur ce lieu qui est un ancien atelier à Villeurbanne dans la Petite Rue de la Vie. Donc c'est le théâtre de la Petite Rue. Et donc voilà, un atelier de 250 mètres carrés, une salle de spectacle et puis un coin bar très, très sympathique, un mobilier rococo, un peu de verdure avec un petit bout de jardin aussi. Et donc c'est une ancienne école en fait.
Ah, c'est une ancienne école, c'était pas
théâtre,
un théâtre.
De théâtre, mais une école de théâtre
en fait,
avec un plateau, avec une régie technique et tout ça. Et donc on a repris cette école, mais on l'a ouverte un peu plus, à plus de programmation, plus de partenariats, et c'est un lieu qui avance dans sa programmation au fur et à mesure un peu des rencontres. Donc il y a des spectacles comme ça, il n'y a pas de programmation vraiment, et en fonction des rencontres avec les compagnies, avec les comédiens, et puis c'est aussi un lieu de formation. Il y a beaucoup de formation autour du métier d'acteur notamment, et donc voilà, des cours de théâtre aussi, et puis des temps de rencontres, et puis donc ce petit festival qui émerge aujourd'hui.
Théâtre de la Petite Rue, quel charmant lieu, ce que je disais, extrêmement attachant. Quand on y est allé une fois, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner.
Ambiance sympathique.
Alors ça tombe bien, on va pouvoir y passer toute une journée le 15 mars prochain, de 10h à 22h. Donc le Short Festival, c'est quoi cette idée de faire du théâtre de 20 minutes, des formats courts?
C'est une initiative en fait. Bon, il y a les formats courts, mais il y a aussi le fait qu'il y a toute une nouvelle génération d'acteurs, donc c'est beaucoup de découvertes, et donc c'est dans ce sens-là que ça colle avec l'esprit d'ouverture, de formation qu'il peut y avoir autour du théâtre. Mais je laisse la parole à Olivier.
Olivier Morin, vous avez travaillé 10 ans au sein de la compagnie Loredana, avant de fonder la compagnie Ostinato en 2011, et vous êtes le programmateur de ce Short Festival. Quelle est la spécificité de ce marathon théâtral qui se tiendra le samedi 15 mars de 10h à 22h?
Donc l'équipe de La Petite Rue nous a proposé à Vanessa Larré et à moi, qui travaillons tous les deux à l'ENSAT, c'est-à-dire à l'École Nationale Supérieure Technique du Théâtre, de faire une journée. Alors au début on ne savait pas si ce serait une journée, un week-end, et on s'est dit pour la première édition ça va être une journée, pour donner une sorte de visibilité à des jeunes acteurs et actrices qui sortent principalement de l'ENSAT, et de leur proposer un espace de travail, et puis de faire une rencontre avec le public et quelque chose qu'ils auraient envie de faire. Alors on sait que certains avaient déjà des projets en cours, d'autres cette invitation, parce que plus que programmateur on a plus été des invitants.
Néanmoins il y a une petite sélection qui s'est opérée.
Oui,
vous avez déjà vu des choses ou pas vraiment
en fait. Presque, oui, parce qu'il y aura énormément de choses. En fait il y a beaucoup de jeunes acteurs et actrices qui sortent et qui ont envie de faire des choses, qui parfois ont du travail, parfois en ont moins.
La situation
actuelle n'est pas évidente pour les jeunes qui sortent des écoles, et on s'est dit que c'était aussi l'occasion pour eux d'avoir une sorte
une visibilité et puis
pour
une
mettre
échéance.
En quelque chose. Donc chacun a un petit peu choisi ce qu'il voulait faire. Certains reprennent des projets, parfois même qu'ils avaient initiés dans l'école à l'ENSAT. D'autres inventent des nouvelles choses. Et forcément, pour que ce soit un mouvement, un mélange, qu'il y ait des choses, ça ne pouvait pas être des formes d'une heure ou d'une heure et quart.
Entre certains, 20 et 40 minutes.
Voilà, donc certains dureront. Alors il y a même une forme plus courte, mais qui sera associée à une autre forme. Disons que chaque programmation dure 30 minutes, 40 minutes, donc avec des pauses entre chaque.
Comment ça se passe pour le festival ? On vient, enfin le public doit réserver un peu. C'est quoi le conseil, Thierry ? Qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs qui
pourrait être vraiment sympa de venir ?
Vous
pouvez aller sur le site lapetiterue.com, qui est le site du théâtre. Et donc il y a donc c'est 4 euros la séance. C'est pas très cher. C'est 2 euros pour les moins de 26 ans.
Ce
qu'on a envie, c'est que les gens qui viennent voir un spectacle restent pour en voir d'autres. En fait,
bien sûr.
Voilà. Et donc c'est à la carte. On peut faire ce qu'on veut. Puis donc il y a même des passes, 6 spectacles, 15 euros et ainsi de suite. 9 spectacles, 20 euros, je crois, un truc comme ça.
Il est prudent de réserve.
Il y a 49 places assises et dans les gradins. Et donc, il est préférable de réserver. Mais bon, de toute façon, on accueillera les gens sur place. Le théâtre sera ouvert toute la journée. On travaille avec les petites cantines qui sont à Villeurbanne aussi, pas très loin de chez nous, qui vont faire toute une proposition culinaire.
Ouais.
Et puis, le bar sera ouvert. L'idée, c'est que les gens se rencontrent, discutent, comparent un peu leurs idées, leurs émotions par rapport à... Et puis que nos jeunes comédiens et comédiennes rencontrent aussi des professionnels. Donc on invite...
Ce qu'on disait sur la visibilité, ça a une dimension assez importante.
Bon, il y a des auteurs et des autrices aussi qui seront présentes, donc qui ont aussi écrit des textes singuliers. Certains reprennent des textes soit d'auteurs contemporains, voire même d'auteurs plus ancien. Il y aura pas mal de formes en forme de solo, en forme seule, mais pas que. Donc c'est vrai que c'est intéressant de venir en découvrir plusieurs, parce que c'est aussi ça qui fait un petit peu le piquant et l'intérêt de voir quels sont les univers de jeunes gens d'aujourd'hui qui entrent dans ce métier et qui ont des questionnements, des préoccupations.
Est-ce que pour l'instant, dans ce que vous avez vu, vous avez été surpris des propositions, Olivier Morin ?
Il y aura effectivement des projets qui seront en forme plus traditionnelle, frontale, comme on dit, et puis des choses sûrement un petit peu plus participatives. Je sais qu'il y aura des formes forcément avec de la vidéo, des choses plus immersives avec le public. Il y aura des formes naissantes encore qui seront presque des formes de lecture même lisées. C'est toujours des moments assez intéressants parce que
prémices.
On entend vraiment le rapport qu'un acteur ou qu'une actrice a à que ça devienne une forme. Donc il y aura un petit peu des formes comme ça très 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 différentes. Peut-être aussi des choses un petit peu dans la salle.
C'est le Short Festival, 10 formats courts de jeunes artistes, c'est le samedi 15. C'est du non-stop de 10h à 22h avec un petit bar, une restauration. Venez découvrir ce théâtre de la Petite Rue, c'est absolument charmant. Quelque chose à ajouter, Thierry ?
Non, juste une petite remarque d'Olivier. Oui, c'est à partir de 10h, le premier spectacle est à 11h.
11h.
Ça laisse
un petit
laisse un peu de temps pour
arriver. Il y a un petit accueil croissant quand même. Oh, très bien, super, très bien. Merci beaucoup en tout cas tous les deux d'être venus nous rencontrer. On sera là le 15 mars. Merci beaucoup. Guillaume, cette semaine, tu es accompagné du duo Salut l'Orage. Merci d'être venu sur le plateau de la Comédie Odéon pour nous parler de votre musique, les gars.
Bonsoir, Salut l'Orage. Alors, on est en plein hiver, mais Salut l'Orage, je trouve que c'est un petit peu amusant. Il y a peu d'orage en hiver, mais vous faites quand même beaucoup de bruit sur scène. Alors, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, parce que vous êtes un jeune groupe, donc je crois de Saint-Etienne, mais est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus sur comment est né le projet ?
Donc nous on est le duo Salut l'Orage, donc effectivement on vient de Saint-Etienne. Le projet existe depuis décembre 2023, on l'a lancé sur un concert au fil, c'était super chouette. Depuis on a avancé, on a sorti 4 musiques, dont une le 7 février dernier, de La Sueur et des Larmes. Ce qu'on fait c'est du rock en français, bien inspiré rock britannique et aussi très hip-hop dans le chant, hip-hop français, rap, tout ça.
Alors faut dire que vous êtes un duo, batterie, guitare,
ouais, c'est ça.
Tous les deux vous chantez. Vous êtes frères ?
Non, on n'est pas frères.
Vous n'êtes pas frères. Pourtant, j'étais persuadé que c'était une fratrie. Parce qu'à Saint-Etienne, il y a Terre Noire aussi, c'est une fratrie. Enfin, voilà. Comme tu l'as dit, vous avez sorti 4 titres.
Ouais, c'est ça.
Donc pour l'instant, il n'y a pas de disque que l'on peut acheter. Mais alors, pourquoi justement cette tactique, peut-être, du single en fait ?
parce qu'en fait, aller en studio quand on a un groupe de rock, c'est cher. Parce que voilà, on a des instruments acoustiques à enregistrer. Le jour où nous, on sortira un premier objet physique, on a envie que ça marque un cap un petit peu dans le développement du groupe. Pour ça, il faut qu'on ait plus de force, plus de partenaires, plus de public aussi. Il faut encore qu'on trouve notre public. Une fois qu'on aura de quoi faire une vraie tournée nationale, une vraie promotion nationale, ouais, là on ira. C'est pas les titres qui manquent en tout cas.
Tu parles de tournée, mais vous avez fait quand même beaucoup de concerts. Alors comment vous créez en fait ? Vous partez de la scène pour aller vers le titre et l'enregistrer ou dire aux gens qui nous écoutent, c'est puissant ce que vous faites. Comment vous créez ? Vous partez de la scène, vous dites cette chanson, on voudrait qu'elle sonne vraiment sur scène.
On crée beaucoup derrière un ordinateur. C'est-à-dire qu'on a été formé à la MAO, on écrit la batterie, on rentre les guitares, on rentre les idées, donc on compose comme ça. L'avantage, c'est que ça nous met directement dans une position d'écoute. Donc on a directement un retour sur ce qu'on fait. C'est enregistré. Quand il y a besoin d'écrire le texte, il n'y a plus qu'à écrire. Donc en général, on fait ça à deux. Line mélodique, c'est plutôt moi. Ça arrive qu'on les fasse à deux aussi. Le texte, c'est moi qui l'écris pour le coup. Et après, on joue le morceau sur scène. Il y a des morceaux qu'on a composés comme ça pour la scène, vraiment, où on s'est dit celui-là c'est un morceau de scène, on le sortira pas, ouais. C'est pour la scène. Et au contraire, il y en a qu'on a composé, qu'on n'a pas joué sur scène encore.
Alors comme on le disait, sur scène c'est assez brutal. Moi, comparaison n'est pas raison, mais moi je pense, quand je vous écoute, même si vous chantez en français, je pense à Last Train, des choses comme ça, où ça envoie du lourd. Vous disiez que vous avez fait 4 titres, on parlait de certains titres, bon, M'en aller, alors est-ce que vous voulez vraiment des rockstars en fait, c'est ça l'objectif?
Ouais, grave. En vrai, ouais, on a envie de vivre de notre musique, de tourner partout et de rencontrer notre public. Bien sûr, depuis tout petit, c'est notre rêve, c'est notre passion et on travaille pour ça aussi, ouais.
Alors, il y a un autre titre qui s'intitule Tout va bien, et en fait, dans cette chanson, ben rien ne va bien en fait, tout va plutôt mal. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce titre-là ?
C'est vrai que le titre peut porter à confusion, c'est un peu ironique. C'est sur le refrain de dire tout va bien, et en fait, dans le reste des paroles, on comprend que ça va pas vraiment. C'est un morceau qui parle de un peu de solitude, de perte de sens, de se retrouver dans une soirée, dans un appart avec plein de gens et de pas avoir vraiment envie d'être là en fait et de se forcer.
Ce qui est bien avec ce titre-là, je crois que vous l'avez joué chez Radio Scoop là, en acoustique, hein, c'est ça ? Et en fait, ça fonctionne vachement bien en acoustique aussi. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et puis un autre truc aussi que je voulais dire, c'est que alors, vous faites des clips, c'est pas vraiment des clips, enfin si, mais c'est des vidéos. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que bah, comme vous êtes jeune, vous avez fait ça avec les moyens du bord. On sent que c'est fait pour le téléphone, c'est-à-dire que voilà, il y a cette idée que le téléphone c'est un outil qui permet de découvrir de la musique, et donc voilà, vous avez insisté sur le format un peu vertical du téléphone. Alors quand on va sur YouTube, c'est un peu étrange parce que ça fait un peu voilà, un peu différent, mais voilà. Et ça c'est des choses auxquelles vous avez pensé ?
Ouais, complètement. En fait, on s'est dit que aujourd'hui, comment est-ce qu'on consomme la musique, comment est-ce qu'on on consomme tout court, c'est par les réseaux. On voulait vraiment instaurer notre musique là-dedans aussi, donc faire les clips qui défilent dans les feeds Instagram, Facebook, TikTok et YouTube pareil. Sur les 4 titres, on a décidé de fonctionner comme ça. Je pense qu'on va continuer comme ça encore un petit peu. On aime bien ce côté vertical.
Ça nous permet de parler du dernier titre qui vient de sortir, qui s'intitule De la sueur et des larmes, qui a été tourné au fil puisque vous êtes de Saint-Etienne. Oui. Mais vous allez nous parler un petit peu aussi de Bourgoin parce que vous êtes soutenu par les abattoirs. Ce titre, il n'est pas très joyeux non plus parce que je vous cite, hein, le bonheur est en pause. Je crois plus en l'avenir qu'on nous promet. Vous êtes jeune, c'est dur d'entendre ça en fait, de la part de jeunes gens.
Il parle surtout de désillusion en fait. Je crois plus en l'avenir qu'on nous promet. C'est difficile en fait quand on se construit en tant que jeunes adultes dans le monde d'aujourd'hui de se projeter facilement. Je sais pas si ça a été facile un jour, peut-être plus, peut-être pas du tout, j'en sais rien, j'étais pas là. Et puis au-delà de ça, il y a comment on avance nous à titre personnel là-dedans et comment on trouve une place dans ce monde-là.
Ça me fait penser à un autre groupe qui est désormais lyonnais mais qui vient pas de Lyon au départ, qui s'appelle Akira El Saba. Je vous invite à l'écouter, ça tabasse,
connaît,
aussi,
ouais,
vous connaissez, voilà. Et en fait Akira, ils ont un peu le même discours que tu viens de tenir, c'est-à-dire sur le mur en fait qu'on se prend. On va peut-être écouter quand même De la sueur et des larmes.
6 ans de vie à 100 à l'heure, l'ego abîmé, j'essaye d'apprendre de mes erreurs. Mais le vice est borné, y'a plus que de moi-même que j'ai peur. Viens pas me parler, je suis un vrai trou noir comme Jim Hopper. Je brûle tout ce que j'effleure. Le bonheur est en pause, je suis bon qu'à écrire des chansons tristes. La vie d'artiste me colle à la peau. Je mets tout ce que j'ai dans ces quelques mots. Ça me guérira pas, mais faut bien que j'en fasse quelque chose. Ah ouais. Plus j'avance, plus je ressens en moi les dissonances. Y'a de moins en moins de gens en qui j'ai vraiment confiance. Je me sens seul, je suis pas vieux, j'ai une colère immense. Je suis qu'un homme, je m'en veux, je vois mes démons qui dansent. Je crois plus en l'avenir qu'on nous promet. Je distingue toujours pas le sommet. J'ai fait du mal, j'en ai perdu le sommeil. Bloqué dans l'hiver, je trouve pas la sortie. J'ai dit que j'étais prêt, mais en vrai j'ai menti. J'ai le cœur en miettes, les idées assorties. Les fleurs du bouquet envahies par les sorties. J'ai voulu bien faire, mais c'est toujours la même. On finit par décevoir tout ce que l'on aime. De la sueur et des larmes sur nos épiternes. Je suis comme dans un mauvais rêve et la nuit s'éternise. Souvenirs brûlants reviennent encore. Tristesse couchée sur deux accords. Douleur trahie par la voix qui flanche. Les yeux fermés pour rester étanche. Y'a comme un vide, comme un manque dans le système. Un incendie, un monstre dans l'abdomen. Le soleil brille mais je capte pas la lumière. Non, non. Attiré par ce qui nous nuit, on cède et on oublie. Le passé nous poursuit, une taffe et un verre vide. Figurant dans la matrice, je vois l'espoir qui s'éclipse. Je voudrais m'envoler mais j'ai les deux pieds dans les abysses. Je crois plus en l'avenir qu'on nous promet. Je distingue toujours pas le sommet. J'ai fait du mal, j'en ai perdu le sommeil. Bloqué dans l'hiver, je trouve pas la sortie. J'ai dit que j'étais prêt, mais en vrai j'ai menti. J'ai le cœur en miettes, les idées assorties. Les fleurs du bouquet envahies par les sorties. J'ai voulu bien faire, mais c'est toujours la même. On finit par décevoir tout ce que l'on aime. De la sueur et des larmes sur nos épitermes. Je suis comme dans un mauvais rêve et la nuit s'éternise.
Donc on vient d'écouter De la sueur et des larmes de Salut l'orage. Dans cette chanson, on parle de Jim Hopper. Vous pouvez me raconter un peu comment il apparaît dans la chanson? Pourquoi ce personnage?
Jim Hopper, donc, si vous ne connaissez pas, c'est dans Stranger Things.
Yes.
Et c'est le personnage du shérif.
Ouais.
Et c'est un personnage qui a envie de bien faire en fait tout le temps, mais qui a des gros défauts aussi, et qui a tendance à être très envahissant et à être maladroit. Et à pas bien exprimer ses émotions, ses sentiments. Donc il a des difficultés un peu dans les rapports sociaux avec les autres. Et il y a un moment dans la série, alors je ne saurais plus où c'est, où il dit que c'est un trou noir. Et ça m'avait un peu marqué. Et du coup, d'où la phrase qui dit « Je suis un trou noir comme Jim Hopper, je brûle tout ce que j'effleure. » En disant que malgré tous les bons sentiments, t'as l'impression de détruire tout ce que t'approches, quoi.
Parlez quand même de votre actualité. Donc, vous avez une série de concerts dans la région, puisque vous allez jouer le 20 mars au Toy Toy à Villeurbanne, et puis le lendemain à Annecy, au Brise-Glace, et puis un peu plus loin dans le temps, à Rouen, l'Eclipse, un super bar, Rouennec, vachement bien.
Bah, le
12 avril. Et puis vous avez une date parisienne quand même au Supersonic, ça c'est très chouette aussi, le 2 avril.
C'est ça.
Mais bon, la prochaine, ça sera au Toy Toy. Est-ce qu'on peut aussi peut-être évoquer un nouveau titre qui sortirait, puisque vous êtes dans cette idée de sortir des titres
tu reproches
ouais.
Au printemps.
Au printemps, d'accord. Bah écoutez, on va écouter ça avec attention. Merci beaucoup, salut l'orage, on vous retrouve sur scène, sur la scène du Toy Toy, donc je le redis, le 20 mars. Merci à vous.
Merci à toi.
Bonjour Gaëlle, cette semaine tu nous parles de la Fondation Bulukian.
Deuxième clap pour la résidence Bulukian-Fontevraud. L'année dernière, je vous avais présenté cette nouvelle résidence, née d'un partenariat en deux temps, une étape de création-recherche à l'Abbaye royale de Fontevraud, puis une exposition personnelle à la Fondation Bulukian. Après Yann Lacroix en 2024, mise à l'honneur en 2025 de la plasticienne franco-danoise Eva Nielsen, avec qui j'ai partagé un moment cocasse. Nous avons parlé de nos similarités, à savoir la rousseur et nos coupes de cheveux semblables, instant truculent. Plutôt que de rester dans l'atelier de production à l'abbaye, Eva Nielsen a opté pour la résidence croisée entre Fontevraud, Le Vercors et Lyon, en mode traversée, en version road trip. Rien n'arrête la pétillante Eva Nielsen, pas même sa nomination récente parmi les 4 finalistes du prestigieux prix Marcel Duchamp, sésame de l'art contemporain. Les 2 commissaires de l'exposition, Fanny Robin, directrice artistique de la Fondation Bulukian, et Emmanuel Morin, directeur artistique de l'abbaye royale de Fontevraud, souligne d'emblée. La résidence d'Eva Nielsen avait déjà commencé lorsque l'artiste a été nominé. Qui dit résidence croisée dit rencontre, expérimentation, superposition, assemblage. Ces idées de combinaison se perçoivent dès l'extérieur de la Fondation Bulukian. Les vitres investies de vitrophanie, un procédé d'image autocollante à même la vitrine, nous immergent dans des représentations d'alluvions. Ces dépôts de sédiments dans les cours d'eau qui donnent son titre à l'exposition. Alluvion qu'Eva Nielsen a rendu nébuleux, énigmatique. Les traits surgissent à peine, comme si l'image était une révélation proche de l'esthétique du pictorialisme. La scénographie magnétise dès l'entrée du parcours. Elle est signée Ghost House, studio avec lequel Eva Nielsen collabore depuis des années. Eva Nielsen est une artiste hardie qui aime les défis. Le premier, être une femme artiste qui, de plus, s'attaque au paysage. Double challenge que peu de femmes ont relevé. Elle cite toutefois comme figure emblématique Georgia O'Keeffe et en land art Nancy Holt et Agnès Dénès. Autre défi d'Eva Nielsen, ne choisir ni exclusivement la photo, ni la peinture, mais leur subtile imbrication, articulée en sus avec de la sérigraphie. Technique révélation pour la plasticienne qui l'aperçoit comme un pont entre photo et peinture. Sérigraphique, Eva Nielsen soumet à de nombreuses expérimentations plastiques dans une veine proche de l'esthétique de Sigmar Polk qu'elle admire. Eva Nielsen s'affranchit de tout académisme et stimule une production qui peut être qualifiée de création augmentée. L'hybridation souveraine dans son travail naît de juxtaposition de techniques, de superposition de matières et de confrontation de multiples gestes artistiques. Comme, par exemple, scanner des froissages, jouant du trompe-l'œil, car imprimé à plat, plonger des voilages dans l'eau pour les imprégner de sédiments, assembler des décalages d'écran sérigraphique pour multiplier les points de vue, ou encore ajouter des résidus d'atelier dans sa peinture. Eva Nielsen renchérit. Il faut laisser l'atelier faire aussi le travail. En créant parfois même le sol, elle souhaite faire ressurgir, dans une démarche qu'elle nomme « archéologie du paysage », les empreintes de l'espace dans lequel elle crée. Pour atteindre une représentation chorale, Eva Nielsen recherche, explore, sonde, fouille incessamment et favorise l'accident, l'accident heureux. Adepte de la sérendipité, cette fameuse alchimie du hasard heureux qui mène à de fructueuses découvertes, Eva Nielsen provoque l'aléa, pivot fécond de son processus créatif. Elle peut ainsi volontairement laisser des images s'altérer dans son jardin pour les intégrer plus tard dans ses créations. L'action du temps, durée et climat. Les processus d'érosion, d'empreinte et de décantation sont constitutifs de l'œuvre. Avec l'exposition Alluvion, l'artiste soulève une question. Qu'est-ce qu'un paysage? Car une image unique serait en effet réductrice. Eva Nielsen interroge qu'est-ce qu'on saisit d'un lieu et insiste, ce sont des récits pluriels qui viennent recréer l'image. Cette pluralité se manifeste par exemple dans le diptyque Alvar. L'œuvre mêle photos de famille, huile, encre et organza. Il faut déambuler devant ce diptyque pour être saisi par les multiples jeux moirés de l'organza. La vue voltige, car Eva Nielsen a superposé 2 tissus d'organza pour jouer avec leur trame. Dans ces ondoiements captivants, l'image s'échappe tout autant qu'elle se révèle. Référence aux souvenirs et à ses réminiscences. On songe au procédé d'anamorphose ou d'impression lenticulaire, que vous connaissez, qui n'a jamais manipulé une carte postale lenticulaire pour donner des impressions de relief grâce au changement d'angle. Dans l'œuvre Gypse 2, une photo floutée et saturée soulève également l'idée d'hybridation. Le rendu effleure celui d'une peinture. On songe à Gerhard Richter. Dans le tableau Diluvium, Eva Nielsen rend toute l'impétuosité du déluge en incorporant à de l'acrylique, encre de Chine et sérigraphie du latex, plus mat que l'organique organza. Autre hybridation qui invite à une représentation supplémentaire du paysage. L'œuvre Fovea, quant à elle, emprunte son titre à la zone centrale de la rétine qui permet la vision précise des détails. Fovea met en scène des tuyaux pour le drainage des eaux usées en mêlant huile, acrylique et les effets de trame bendée caractéristiques de la sérigraphie. Ces tuyaux installés comme des jumelles proposent ainsi, autour d'ellipses et d'interstices dans le paysage, des vues additionnelles. Sollicitation à multiplier les points de vue dans la veine de l'installation Sun Tunnels de Nancy Holt. Dans le deuxième espace de l'exposition au fond du jardin complètement rénové de la Fondation Bulukian, l'œuvre Dipolar révèle un singulier et dynamique paysage, représenté en vision oblique. Dipolar témoigne combien notre regard n'est pas que frontal. L'œuvre de grand format est suspendue dans l'espace et non pas accrochée au mur. Le paysage composé de multiples cadrages semble léviter. Exposition recommandée. Alluvion Eva Nielsen est programmée à la Fondation Bulukian jusqu'au 10 mai 2025. À noter, vous pouvez rencontrer l'artiste le samedi 22 mars de 14 à 17h. Plus d'informations sur bulukian.com.
Merci beaucoup, Gaëlle.
Thomas, la lecture cette semaine est consacrée aux aphorismes issus du recueil « Le saviez-vous » de François Cavanna, auteur, dessinateur et patron de presse, plus connu sous le simple Cavanna. Nous t'écoutons et on en parle juste après.
Crocodile. On peut aisément confondre un crocodile avec un tronc d'arbre, surtout si le crocodile se tient debout sur sa queue et serre une branche d'arbre feuillue entre ses dents. Coquillage. Si l'on met l'oreille tout contre l'orifice d'un coquillage, et si l'on écoute attentivement, on entend avec une netteté hallucinante le bruit des vagues de l'océan, mais on n'entend pas le Bernard l'ermite caché au fond du coquillage qui vous introduit une de ces sales pinces pleines de poils dans l'oreille et qui vous mange le cerveau. C'est pourquoi les gens qui vont en vacances à la mer en reviennent encore plus bêtes qu'avant. Cigogne. La cigogne peut franchir en volant 6000 km sans escale. Si on lui coupe une aile, elle peut encore franchir une distance de 3000 km, mais en rond. Si on lui coupe les deux ailes, elle peut encore franchir 1 km, mais de haut en bas. Autruche. Mathilda, une autruche du zoo de Londres, avait avalé en 1947 une pendule qui fonctionna parfaitement pendant 18 ans dans son estomac en sonnant les heures et les demi. Pourtant, l'autruche continua à regarder l'heure à sa montre bracelet. Chien. Les chiens ont un sens prodigieux de l'orientation. Monsieur Tino Deur aussi avait le 10 juillet 1926 été perdre son chien Napoléon à une distance de plus de 3635 km de son domicile. 43 jours plus tard, entendant gratter à sa porte, il eut la surprise d'y trouver un chien. C'était presque le même. Face à face. Les seules créatures qui s'accouplent en se faisant face sont l'homme et le sandwich au pâté. Vache. La vache n'est pas la femelle du bœuf. La vache est la femelle du taureau. La femelle du bœuf, c'est la charrue. Écrevisse. Quand on fait cuire une écrevisse, elle change de couleur afin de laisser croire qu'elle est un caméléon, car elle sait que le caméléon n'est pas bon à manger. Mais ça ne prend pas. Intellectuel. Quand on coupe la tête d'un intellectuel, il meurt. Fécale. Matière fécale. Un homme de corpulence moyenne rejette au cours de sa vie de 15 à 18 tonnes d'excréments de consistance variée. On a pu calculer avec précision que, lorsque la surface totale de la Terre sera recouverte d'une couche uniforme de matière fécale de 1,65 m de haut, la fonction respiratoire des êtres humains sera rendue impossible par l'obstruction des orifices nécessaires. Au rythme actuel de l'expansion démographique, ceci se produira en l'an 2295, très exactement le 23 avril. Il faut espérer qu'à ce moment, les progrès de la technologie auront permis à l'homme de quitter cette planète devenue inutilisable pour une autre encore plus propre.
Merci beaucoup,
ce qui n'est
Thomas.
Pas sans nous rappeler le projet d'un milliardaire qui veut aller habiter Mars.
Effectivement.
N'est-ce pas ?
Effectivement. Je vais lire tout simplement la dernière de couverture, comment Cavanna vendait ce livre. Ceci est un livre très utile. Je ne crois pas qu'il puisse exister un livre plus utile que celui-là. Tout ce qu'il y a d'utile dans le savoir humain est enfermé là-dedans. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que je l'y ai mis. Ce qui n'y est pas, c'est que ça ne valait pas la peine d'en parler. Ayez toujours ce livre sur vous. Au moment du danger, feuilletez-le fébrilement. La clé de votre problème s'y trouve forcément, ici ou là. Vous pouvez très bien tomber sur la bonne page. Écrivez-moi pour me dire merci. Je retiens personnellement une citation indémodable de Cavanna. Plus on est con, plus on a peur de passer pour un con. Merci beaucoup en tout cas, Thomas. Pourquoi avoir choisi Cavanna ?
J'ai écouté l'autre jour une interview de Daniel Schneiderman. Il vient de sortir un bouquin sur le charlisme. Je trouve que voilà, il pouvait être temps de revenir à la source de ce qui a fait Charlie Hebdo et puis avant Harakiri
bien sûr.
Un espèce de duo à la base entre Cavanna et Choron.
Et Choron.
Un duo inattendu quand même. Hein,
ah, c'est vrai, c'est vrai.
Et puis toutes les personnalités qui les ont suivies avec une...
Un franc-parler, voilà, voilà. Et ouais, et ça faisait du bien aujourd'hui. Finalement, hein, on est aussi dans une époque où parler fort, parler haut et dire ce qu'on pense de cette manière-là, c'est pas toujours facile, on va dire.
Je conseille d'écouter les interviews actuelles de Daniel Schneiderman, qui passe pas sur les grands médias.
Ouais, c'est sûr.
Sur ce propos, voilà.
Merci beaucoup, en tout cas, Thomas. Nous terminons comme chaque semaine avec nos Gédéons. Guillaume, est-ce que tu veux bien commencer ?
Alors je commence ce coup-ci pas avec un disque, mais avec un livre formidable d'un historien que j'apprécie énormément, Johann Chapoutot, que vous connaissez peut-être parce qu'il est dans les médias en ce moment, pour un livre paru chez Gallimard, chez NRF Essai, les irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir ? C'est une très bonne question et je vais peut-être, juste pour que vous compreniez un peu mieux quel est le propos, et lire peut-être la quatrième de couverture. Un consortium libéral autoritaire tissé de solidarité d'affaires, de partis conservateurs, nationalistes et libéraux, de médias réactionnaires et d'élites traditionnelles, perd tout soutien populaire. Au fil des élections, il passe de près 50% à moins de 10% des voix et se demande comment garder le pouvoir sans majorité, sans parlement, voire sans démocratie. Cet extrême centre se pense destiné à gouverner par nature. Sa politique est la meilleure et portera bientôt ses fruits. Quand les forces de répression avertissent qu'elles ne pourront pas faire face à un soulèvement généralisé, eh bien le pouvoir, qui ne repose sur aucune base électorale, décide de faire alliance avec quoi donc ? Avec l'extrême droite, avec laquelle il partage au fond à peu près tout et de l'installer au sommet. Évidemment, quand on entend ce quatrième de couverture, on pense à ce qui se passe un petit peu aujourd'hui en France. Alors évidemment, comparaison n'est pas raison, mais c'est pour ça que ce livre est passionnant, parce qu'il il va à l'encontre des idées reçues sur le fait que Hitler serait arrivé au pouvoir d'une manière par les élections, tout ça. Non, on a mis Adolf Hitler au pouvoir, et ce livre en parle d'une manière vraiment formidable. Donc je répète le titre, Les Irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir, de Johann Chapoutot, chez Gallimard, dans la collection NRF Essai.
Merci beaucoup, Guillaume. Alors Gaëlle, avec quoi es-tu venue cette semaine ?
Mon Gédéon de la semaine commence par une question. Comment faire une image d'un événement sans image ? Aujourd'hui, un événement ne semble pas pouvoir exister s'il n'en existe pas d'image. Item, collectif dédié à la photographie documentaire et galerie éponyme, Item Galerie, invite Camille Garbi, photographe qui s'empare du concept d'image en creux, c'est-à-dire une image offrant une présence latente de l'événement sans l'investir. Dans son exposition « Faire face, histoire de violence conjugale », Camille Garbi propose trois séries. L'une, nommée « Preuve d'amour », ne montre pas l'image de féminicide, mais des objets du quotidien transformés en instruments de crime qui suggèrent l'événement. De Simès comporte des photographies au cadrage clinique, toujours sur un fond bleu clair. Les images révèlent des objets tels qu'un sac plastique, un couteau, un fer à repasser, un cutter, un marteau ou encore une prise électrique. Chaque objet instaure une mise sous tension et invite le spectateur à compléter la représentation. Camille Garbi crée l'image en creux de l'événement sans image. Proposition glaciale, éloquente et puissante ouverture à un espace de réflexion. La photographe a mené en amont un vaste travail d'investigation car en vis-à-vis de chaque instrument des meurtres figure une liste de femmes ayant été tuées avec l'objet en question. Une autre série, Les monstres n'existent pas, a été réalisée en prison. Camille Garbi a photographié toujours de dos des détenus incarcérés pour des faits de violence conjugale ou de féminicide. Chaque détenu a témoigné de la responsabilité de ses actes. Ces démarches écrites, mises à disposition dans l'exposition, sont importantes pour Camille Garbi qui perçoit dans ses témoignages une déconstruction du cycle de la violence au sein du couple. L'exposition « Faire face, histoire de violence conjugale » de Camille Garbi est programmée à la Item Gallery jusqu'au 5 avril 2025. Plus d'informations sur collectifitem.com.
Merci beaucoup Gaëlle. Alors pour moi, ça sera évidemment plus léger, on va dire. Ça, c'était un sujet assez fort pour l'actualité de l'Item Gallery. Pour moi, ça sera cinéma, avec un film qui ne devrait pas laisser indifférent. Pour tous ceux qui ont adoré Striptease, la série télé belge des années 90, le film Striptease intégral va sans doute retenir votre attention. Les 100 faux-semblants et les no comment des documentaires sont très efficaces. Ils posent un regard tendre sur 5 personnages d'hommes et de femmes, moins flamboyants que certains de leurs prédécesseurs télévisuels, se doublent ici d'une véritable inquiétude. Hanté par cette image de morgue ponctuant chaque segment, le film s'achève par une pirouette aussi drôle que macabre. Une allégorie de l'existence en somme. Bref, Striptease intégrale, c'est en ce moment sur nos écrans à ne pas rater. Merci beaucoup. Passez une bonne semaine et puis restez curieux.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaëlle Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.